Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Jeanne Balibar. Vers 19h45, le son du jour, l'effet domino de Golden Bug avec Anna Jean et The Liminianas. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir pour une fois à Paris pour nous faire visiter l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Guillaume Ficheux à la prise de son. Bonsoir Jeanne Balibar.
Bonsoir Arnaud Laporte.
Vous serez demain dans les salles à l'affiche du film Maxime Rapin, Laissez-moi, toujours à l'affiche de Boléro d'Anne Fontaine, sorti il y a 2 semaines. Beaucoup d'autres sorties à venir dans les prochains mois. Mais très heureux de vous accueillir pour celui-ci, Laissez-moi, que j'ai vraiment beaucoup aimé. On va en parler bien sûr de ce film et on va aussi, comme chaque soir avec nos invités, essayer de revenir sur quelques moments importants de votre parcours, sur quelques rencontres importantes, et surtout essayer de mieux comprendre comment vous pratiquez votre art. Alors, dire tout d'abord qu'il vous a fallu longtemps, Jeanne Balibar, avant de devenir comédienne. Dès l'enfance, apportant quand même 2 grandes passions, la lecture, on va y revenir, et la danse, que vous pratiquez de 6 à 16 ans, scolarité, danse, études au lycée Racine. Vos parents vous ne soutiennent pas vraiment, je crois, dans ce choix, mais ça va même plus loin, parce que lorsque vous avez un prix au concours général, vos parents, et je l'ai, vous interdisent de tenter l'entrée à l'Opéra de Paris, mais pour autant...
Vous mélangez un peu les dates, là, parce que l'interdiction de tenter l'entrée à l'Opéra de Paris, c'était quand j'étais en 6e.
Ah oui ?
Et le prix au concours général, c'est en 1ère.
D'accord. Bon, enfin, il y a une constance du peu de goût qu'il pouvait avoir, mais je me dis quand même que cette formation de danseuse, elle doit avoir son importance dans votre activité de comédienne. Que pensez-vous qu'il reste de la danseuse en vous ?
Heureusement, pas trop de choses, à vrai dire. Parce que c'est les corps très façonnés par la danse classique, sur une scène ou devant une caméra, c'est parfois un peu trop rigide et tout ça. Donc heureusement, je me tiens suffisamment mal par ailleurs pour que ça se voit pas trop que j'ai fait toute cette danse. Mais je dirais quand même un goût d'habiter l'espace, quoi. Voilà.
Ce qui n'est quand même pas rien. Bon, époque à une école normale, maîtrise d'histoire, vous auriez pu vous engager dans une carrière académique, mais vous avez aussi choisi d'entrer au cours Florent. Et au moment où vous vous apprêtez, vous me corrigez si je me trompe, à passer l'agrégation d'histoire, vous réussissez le concours d'entrée au conservatoire. Les dates cette fois sont justes.
À peu près.
mais vous n'hésitez pas, ce sera le conservatoire. Qu'est-ce qui vous fait finalement choisir cette voie-là, celle de devenir comédienne ?
En fait, j'étais partie 2 ans en Angleterre parce que j'étais tombée amoureuse d'un Anglais. Donc, j'avais tout de suite imaginé de faire une maîtrise et un espèce de DEA sur l'Angleterre. Et puis, quand au milieu de ce séjour en Angleterre, il est parti, il m'a abandonnée. Ça a été mon premier grand chagrin d'amour. J'ai été obligée de rester 1 an de plus, que j'avais une bourse, je pouvais pas rendre cette bourse. Et en rentrant de ce moment d'Angleterre, comme j'avais été loin de tout, ça m'a aidée à comprendre qu'il fallait que j'essaye d'être actrice, que je le regretterais toute ma vie si je le faisais pas. Je connaissais à l'époque, parce qu'il sortait avec une copine à moi, tout passe toujours par les histoires d'amour dans ma vie. Denis Podalydès, et je savais qu'il avait fait le cours Florent, donc c'était le seul truc que je connaissais. Je me suis inscrite en cachette pendant l'été en parlant à personne. Et à la minute où j'ai posé le pied sur la petite scène de cette salle de cours, j'ai su que c'était ça, ça serait ça, ça faisait pas un pli. Mmh. Tout le reste n'existait plus.
Vous étiez enfin chez vous ?
Et j'étais enfin chez moi, mmh. Exactement.
Mmh. Alors, il va y avoir très vite un passage à la Comédie Française où les choses ne se passent pas bien, on va le dire comme ça.
Si, quand même. Non, ce qui a été très bien à la Comédie Française, c'était les autres acteurs.
Oui.
Roland Bertin, Catherine Yégel, Éric Ruff, tous ces gens-là.
Des bons camarades.
Ouais, c'est pas plus que des bons camarades, des grands, grands, grands artistes, quoi. Donc ça, c'était merveilleux. Après, c'est vrai que le metteur en scène que j'ai rencontré à cette époque-là était quelqu'un qui harcelait les actrices. Donc j'ai mis longtemps à réussir à le dire. Mais enfin, maintenant, on arrive à dire ces choses-là. Donc...
Bon, ensuite, il y aura de belles rencontres, notamment avec Julie Brochen. J'ai de très beaux souvenirs de ses productions, donc le Vania de Tchekhov, du cadavre vivant de Tolstoï. Je me souviens que c'était à la tempête.
À l'aquarium.
Salle dans laquelle vous jouez. Et puis cette année-là aussi, toujours 2003, vous êtes la Donna Brouès du Soulier de Satin de Paul Claudel, mise en scène par Olivier Piot au Théâtre de l'Odéon, ce qui me permet de revenir à une rencontre marquante, celle avec votre professeur au conservatoire, Madeleine Marion, au micro de Lucien Atoun. En 87, elle parle de Paul Claudel, puisqu'elle était aussi Donna Brouès. C'était dans le Soulier de Satin, dirigé par, mise en scène par Antoine Vitez. On écoute Madeleine Marion.
Moi, j'aime le baroque de l'écriture chez Claudel. J'aime la coupure, soudain, au milieu d'une phrase, sans contre la syntaxe, qui est une coupure... du souffle, du plexus, d'autre chose. Enfin, moi,
c'est très physique.
Complètement physique. Dilatation des cellules à l'intérieur.
Et ça a l'air d'être douloureux pour vous de parler de ça.
Non, mais parce que c'est peut-être trop important, comme le bonheur, enfin, d'une certaine manière, peut être très grave. Je crois que c'est comme si je parlais d'un trésor très précieux et que de trop en parler pourrait risquer de l'altérer. Ou peut-être aussi parce que je me sens très nu devant cette chose-là. Je trouve ça absolument sublime, cette pièce. Je pense que c'est une chance inouïe. Je l'aurai une fois. Alors voilà, je suis comme ça.
Alors moi, je suis comme ça ce soir. C'est bévue sur bévue, a priori. Hein. Je pense que c'est Ludmila Michaël qu'on vient d'entendre.
Moi, je pense que c'est Ludmila Michaël qu'on vient d'entendre. Ouais.
Bon. Déjà deux fautes, ça commence
grande
très
actrice
bien.
Claudelienne aussi, mais...
Mais c'est pas Madeleine Marion.
Non.
Alors Madeleine Marion, parce que c'est d'elle dont je voulais qu'on parle, qui était bien dans cette production, pour autant
oui.
d'Antoine Vitez.
Et qui faisait... Qui est-ce qu'elle jouait Je l'ai vue et je devrais ça, je devrais m'en souvenir. Ouais, moi aussi je fais des bourdes, parce que je devrais savoir qui Madeleine jouait, mais tout d'un coup j'ai un doute.
Mais qu'est-ce qu'elle vous a transmis?
Tout.
Tout ça commence par quoi ?
Tout ça commence par le fait que dès qu'elle commençait à travailler une scène, la scène se transformait totalement, ça n'avait plus aucun rapport avec une page écrite, ça devenait une livre de chair, comme dit Shakespeare, ça devenait quelque chose de fou, de dément, où tout était permis. C'est la femme la plus anticonformiste que la vie m'ait donné de rencontrer. Et je remercierai jamais assez les astres de m'avoir fait rencontrer Madeleine Marion à l'âge de 23 ans. Ça a changé ma vie du tout au tout. Et puis c'était quelqu'un qui avait une histoire très particulière. C'était la fille de Jacques Doriot, l'horrible collaborateur vichiste. Et elle avait vu... Elle avait vécu de se faire cracher dessus, de se faire. Elle connaissait quelque chose de l'histoire humaine que peu de gens connaissent. Et au-dessus de ça, elle trouvait ce goût pour la poésie la plus légère, la plus délicieuse et en même temps la plus ancrée. Enfin, et tout en ayant peur de rien. C'était vraiment quelqu'un.
Alors, côté cinéma, bon, les choses sont allées vite également, avec notamment Comment je me suis disputé ma vie sexuelle à Rondé Plechin, puis des films, entre autres, avec Laurence Ferrar-Barbossa, Olivia Sayage, Anne Labrune, Jean-Claude Biette ou Raoul Ruiz. et cette manie française de cataloguer très vite les jeunes talents. Alors là, avant d'écouter, d'évoquer cette question, on va écouter, là je suis sûr, on va écouter Delphine Seyrig dans Radioscopie, c'était en décembre 71.
On saura tout de suite si c'est...
Ah oui, là il n'y a pas de doute, hein, vraiment. Jacques Sanchel interroge justement cette image qu'on peut avoir d'elle, et relever les adjectifs qui étaient employés dans les journaux pour parler d'elle. Elle peut vous évoquer quelque chose, Jeanne Balibar. Vous voyez qu'on disait toujours raffinée, sophistiquée, extravagante. Écoutez la réponse de Delphine Seyrig.
Je vais peut-être sembler un peu manquer d'humour et être un peu grave, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut quand même, dont il faut parler avec gravité et sérieux. Je crois que toute cette histoire de sophistication qu'on m'applique, bon, ça m'est égal, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Ce que je crois, c'est qu'on essaye de donner une image de quelqu'un, et c'est ce qu'on essaye toujours de faire, de donner une image d'une personne, et de cette façon-là, de la limiter et de l'empêcher de se renouveler et d'aller ailleurs. Moi, je suis une personne très directe, je crois. Si j'ai joué les personnages que j'ai joués qui ont pu donner cette impression, c'est d'abord parce que c'était malgré tout les personnages les plus intéressants qu'on m'ait proposés. Donc ça venait aussi de l'extérieur et de ce qu'on me demandait de faire. Et d'autre part, on serait très satisfait de me maintenir dans ce genre de choses. Et moi, j'ai la ferme intention de ne pas me laisser faire. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à, que je voudrais montrer et dire. Je pense que le théâtre et le cinéma sont des moyens de d'informer les gens qui sont merveilleux. Alors, on peut les informer sur toutes sortes de choses. On peut les amuser par notre imagination ou par l'imagination d'un réalisateur. C'est de l'information aussi, de savoir ce qu'on peut inventer à partir de choses plus ou moins vraies. Bon. Mais il y a aussi d'autres sortes d'informations sur la réalité, sur des choses que les gens, qu'on cache soigneusement aux gens, qu'ils se cachent à eux-mêmes et que peut-être les acteurs peuvent... peuvent tout à coup faire sortir de façon à ce que ça devienne une chose évidente et vraie et pas hypocrite, cachée et dissimulée. Je crois que les acteurs ont un rôle à jouer de cette façon-là. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, les acteurs. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'amuse, c'est ce qui me passionne.
Delphine Seyrig, hein, qui était l'une des trois héroïnes de votre spectacle, Les Historiennes. Alors j'imagine, Jeanne Balibar, que ce qu'elle vient de dire, ce qu'on vient d'entendre, ça fait écho en vous.
Oui, oui, je souscris à tout ce qu'elle dit. Mais c'est pas seulement une manière de limiter quelqu'un. Ça, je pense que toutes les actrices sont en but à ça. Celles qui sont cataloguées archipopulaires, celles qui sont cataloguées sex-symboles, celles qui sont cataloguées ceci ou cela, se sont également limitées. Donc, effectivement, ce qui est en jeu là-dedans, c'est d'une part de limiter les femmes. Et au-delà des femmes, limiter les individus, c'est-à-dire essayer de raconter un mensonge sur le fait que les destins seraient uniques. C'est faux, en fait. Chacun de nous a la liberté d'être plusieurs. Et chacun de nous se bat pour faire exister ça toujours, partout. Et c'est là qu'elle a raison de dire... Les acteurs ont raison de lutter pour essayer de dire que ça c'est possible, qu'il n'y a pas dans la vie que des carcans. Il y en a beaucoup, on perd presque toujours, d'ailleurs elle-même a perdu, moi je perdrais sûrement aussi. Mais enfin, on peut continuer à croire que ça vaut le coup d'être dit ça, qu'il n'y a pas que des carcans dans la vie.
Alors ça, vous en avez fait exploser un certain nombre de carcans, Jeanne Balibar, et puis vous êtes plusieurs, j'aime bien cette idée-là. Et notamment, pour revenir au théâtre, il y a une aventure singulière avec le metteur en scène allemand Franz Castorf, qui vous dirige une première fois dans La Dame aux Camélias, c'était en 2012, d'après Alexandre Dumas, et puis ensuite vous allez le rejoindre à Berlin et participer à beaucoup de productions de la Volksbühne qu'il dirigeait. Il y a eu Les Frères Karamazov, La Cabale des Dévots, le roman de Monsieur Molière, Va jaser, et Molière, Ich bin ein Damen, je ne pratique pas l'allemand comme vous, qui parlait couramment, mais avec Castorf, l'engagement était total, à la fois dans la recherche de création, mais aussi dans le jeu. J'ai eu la chance de voir quelques-uns de ses spectacles. Est-ce que vous avez été avec lui au bout d'un certain aspect de ce que peut être le théâtre ?
Je ne sais pas. J'ai été très très loin. J'ai fait 11 spectacles, je crois, avec lui. Donc deux en France, La Dame aux Camélias, c'était le premier, et Bajazet, c'est le dernier en date. Deux en français et en français, et tous les autres en allemand, principalement à Berlin. J'ai pu explorer des choses que j'aurais pu explorer avec personne d'autre, parce que lui, c'est, à mon avis, le plus grand metteur en scène de ces 50 dernières années. Donc, c'était extrêmement exaltant de travailler avec lui. Parce qu'aussi, ses acteurs, les acteurs de la Volksbühne, sont des acteurs extraordinaires, et que quand on est en face d'eux, waouh, faut y aller, quoi. C'était des spectacles très athlétiques, hein, qui duraient souvent longtemps, avec une énorme dépense physique, une énorme intensité émotionnelle. Je pense que ce travail-là, je pourrais l'avoir avec personne d'autre. Alors, je vais avoir la chance de le retrouver, puisqu'on va faire l'Opéra de Katsu au Châtelet en 2025.
Formidable.
Voilà. Mais c'est vrai que il y a un an, j'ai pensé que je retravaillerais plus, peut-être plus avec lui, et je me suis dit, je vais peut-être arrêter le théâtre, en fait. Et je me suis dit, je vais arrêter. C'est très bien. J'ai fait des choses qui m'ont rendue extraordinairement heureuse au théâtre. Dans un genre complètement différent, ce dont vous parliez, les aventures avec Julie Brochen, c'était tout à fait autre chose. C'était des espèces de... On était un groupe, on sortait du conservatoire, on était très jeunes, etc. C'était très exaltant aussi. Mais je me suis dit, je vais arrêter. Et puis, si jamais, au bout d'un moment, vraiment, la littérature me manque trop... Bon, ben, je ferai pas la fine bouche, je ferai n'importe quoi. Enfin, un truc où pas forcément je serais totalement exaltée par la matière théâtrale, mais en tout cas le texte. Et je me disais aussi, ou si vraiment au bout d'un moment ça manque trop le théâtre, je ferais du boulevard. Parce que ça, j'adore ça. J'aime vraiment, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire et j'aimerais en faire un jour dans ma vie.
Ah, ben, une bonne idée.
Ouais,
le message est passé.
Voilà. Mais en fait, depuis. Ouais. Il se trouve qu'on m'a proposé en novembre, Gwenaëlle Morin m'a proposé de jouer au prochain festival d'Avignon, Don Quichotte, et que je vais jouer le personnage de Don Quichotte, et que c'est un acteur qui appartient à cette troupe d'acteurs handicapés, la Compagnie de l'Oiseau-Mouche, Thierry Dupont qui joue Sancho Panza, Yves-Noël Genot joue Rocinante, qui est aussi
Marie-Noël.
Marie-Noël maintenant, mais je ne savais pas si vous étiez au courant. Et donc, Marie-Noël va jouer Rocinante. Donc, c'est aussi Marie-Noël, quelqu'un dont le travail théâtral me passionne depuis toujours. Donc, là, on vient de commencer les répétitions, et c'est un travail qui n'a absolument rien à voir avec celui que j'ai fait avec Castorf. Essayer d'élaborer ce couple, Don Quichotte Sancho Panza avec Thierry, c'est pour moi passionnant. Donc, j'ai cette chance extraordinaire qui s'est présentée ça. Voilà.
Ben voilà de bonnes nouvelles à venir. Voilà. Hein, Gwenaëlle Morin étant un très, 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 très grand lecteur et metteur en scène.
Mais ouais.
Alors, justement, on aura l'occasion de vous voir à nouveau entrer en scène, Jeanne Balibar, et c'est tant mieux, mais parce que c'est un moment particulier, puis comme on parle des plusieurs Jeanne Balibar, on va écouter Barbara, au micro d'Émile Noël, sur France Culture en août 70.
D'abord, ça se passe comme ça, c'est-à-dire, il y a le moment où on attend, on ne sait pas en plus si les gens vont venir. Il y a le moment où on entre, qui est un moment tout à fait... du moment où tu mets le pied dans la lumière, ah, ça c'est quelque chose. Et puis après, il y a le moment où tu peux oublier ça parce que tu es... C'est pour ça que je peux pas répondre à votre question, parce que je suis complètement repliée dans ma chanson. Je suis avec les gens qui sont dans la salle, et à la fois... seul pour mieux aller. Donc, je ne peux pas penser équilibre ou pas équilibre. Je pense que déjà, pour faire cette chose-là, on n'est pas tout à fait équilibré, puisque quelque part, c'est un exhibitionniste dont j'ai bien conscience. Hein, parce que de toute façon, dire, bon, écoutez, alors maintenant, je vais chanter, vous êtes gentil, moi, j'ai décidé de chanter, voilà, je vais mettre ma robe, mes lumières, soyez gentil. Mais déjà, ce n'est pas logique. Donc, il y a là une fêlure, quelque chose.
Quelque chose. Vous pensez qu'il y a quoi, vous, Jeanne Balibar, qui vous fait entrer en scène ?
Je dirais le combat avec la peur. Et puis l'envol avec les autres, avec le public, comme elle dit. On est avec eux, même si on est seul. L'envol, seul et avec les autres. Mais c'est drôle, Barbara, parce que Il y a des personnages, vous savez, c'est drôle dans la vie d'une actrice, il y a des personnages auxquels on ressemble beaucoup et des personnages auxquels on ne ressemble pas du tout. Et c'est très, très agréable de jouer les deux. Et par exemple, Claudine, le personnage du film de Maxime Rapaz, c'est quelqu'un à qui je ressemble énormément. Et Barbara, c'est quelqu'un à qui je ne ressemble pas du tout. Et tout ce qu'elle dit sur l'avant, c'est pas en écoutant cette interview, parce que quand j'ai quand même
travaillé pour le rôle.
Alors c'est le contraire de moi. Moi, je ne sacralise pas du tout l'entrée en scène. Au contraire, j'ai besoin, et c'est pareil dans la prise de cinéma d'ailleurs, d'entrer sur scène ou d'entrer dans la prise avec la toute dernière impression fugace et hasardeuse qui vient de m'arriver. Et c'est là-dessus que je bâtis la liberté. Et donc, c'est tout le contraire d'arriver très longtemps, d'attendre, de sacraliser la lumière, le premier pas, etc.
Mais la scène, vous la connaissez aussi comme chanteuse, Jeanne Balibar, parce que c'est pas un caprice de comédienne, parce qu'il y a un vrai chemin qui grandit. Il y a eu un premier album, Par Amour, avec la complicité de Rodolphe Burger, Pierre Alféry, c'était en 2003. Il y a eu Salome d'âme en 2006, avec les deux mêmes, mais aussi avec Dominica et Fred Poulet, notamment. Il y a eu des albums disparus.
Des albums fantômes.
Des albums fantômes. Et puis en 2023, paru D'ici là tout l'été, conçu avec Cléa Vincent et coproduit par Arnaud Robotini. Ça occupe quelle place, en fait, la musique dans votre vie?
Ça occupe une place. Disons, le fait de chanter, en tout cas, ça occupe une place secondaire, quand même, par rapport au fait d'être actrice. Qui s'inscrit dans une tradition d'actrice qui chante, etc. Au-delà de ça, c'est pour moi une immense joie de raconter des histoires en 3 minutes. Parce que le théâtre, le cinéma, c'est vraiment des machines énormes. Faire une chanson, c'est beaucoup moins lourd. Ça va plus vite. Faire un disque, c'est un peu long, mais c'est quand même moins long que faire moins long, moins cher. Donc voilà. Et puis aussi, c'est un cheminement, comme vous dites, vers dire les choses moi-même, entièrement moi-même. Là, le dernier disque avec Cléa Vincent, j'ai participé à certaines compositions, j'ai écrit tous les textes, j'ai parlé à une jeune femme pour elle, presque en son nom. C'est l'endroit pour le moment, peut-être avec la réalisation du film, mais alors ça c'est à l'autre extrême, très difficile, très long, très cher, très compliqué, où j'arrive à parler complètement en mon nom, quoi. Ce qui ne veut pas dire que j'aime pas parler pour les autres, j'adore ça, c'est le cœur de mon métier. Mais de temps en temps, arriver à parler uniquement en son nom, c'est pas mal.
Et puis musique, avec votre choix musical qui s'est porté sur l'excellente Rosalia et son morceau Malamente. Pourquoi ce choix, Jeanne Balibar?
Parce que je l'aime beaucoup, elle, en ce moment, je l'adore, voilà.
Je ne peux pas vous contredire, moi aussi je l'adore.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, ¿a qué toma? Malamente, y yo, malamente. Toda la noche rara, me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana, ¿qué? Mejor no salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea. Malamente, así sí. Déjame salve, ilumine, me guarde y por delante.
pensarte malamente. Sì, sì, malamente.
Après Rosalia, ça fait toujours du bien. Mmh. Merci Jeanne Balibar pour ce choix. On revient au cinéma pour nous approcher de ce nouveau film, Laissez-moi, réalisé par Maxime Rapa. Mais avant d'y venir, quand même, revenir sur votre goût du cinéma et revenir à un cinéaste précieux, Jacques Rivette, avec qui vous avez tourné deux films, Le Sublissime Ne touchait pas la hache en 2007. Et avant cela, il y avait eu Va savoir. Et au moment de Va savoir, il était venu parler de son travail sur cette antenne au micro de Marc Voinchet. C'était donc en 2001.
Pour moi, ça fait partie du plaisir de tourner, c'est que le personnage, justement, ne soit pas défini à l'avance. Il n'y a pas de... Les personnages, au départ, dans les 12-15 pages écrites par Pascal et Christine, sont des noms, ils ont des passés, mais il n'y a rien de psychologique sur eux, ou très peu, etc. Et c'est aux comédiens, justement, de les prendre en charge et de leur donner ceci, de leur donner cela. Et ensuite, au fur et à mesure du tournage, on se pose des questions sur ce qui va arriver. Et c'est plus ou moins consciemment, c'est certainement une des choses que j'ai envie de faire au fur et à mesure, c'est de faire que le personnage... On croit que quand on croit se dire ah oui donc il va faire ça et bon bah Bruce il a plutôt envie d'aller dans une autre direction à ce moment-là et que ça bouge tout et qu'à la fin il reste oui ça je suis très content si et pour Jeanne et pour Marianne et je l'espère aussi et pour Sergio et Bruno et bien entendu pour les spectateurs que les personnages restent gardent une part de leur mystère à la fin et qu'on se pose des questions mais qu'est-ce qui va leur arriver après par exemple ou mais en fait qu'est-ce qu'ils pensaient vraiment quand ils disaient ça à tel moment dans telle scène je le sais pas et je suis très content de pas le savoir. C'est personne ne le sait, c'est pas non plus ni Jeanne ni Marianne ni Sergio qui le savent non plus, c'est des choses comme ça brusquement il y a des phrases qu'on dit dans la vie, on dit tout le temps des choses sans les penser puis brusquement on y repense trois jours après tiens j'ai dit ça mais ça, en fait je voulais dire ça et bon voilà si les personnages du cinéma dans les films que j'essaye de faire ont ce genre de vie ben je suis très content parce que c'est ça quand même c'est une des choses qu'on cherche d'avoir des la vitalité, au sens le plus corporel et aussi psychologique.
Alors Jacques Rivette parlait bien sûr de ce film Va savoir, mais il y a beaucoup de choses qu'il vient de dire qui pourraient s'appliquer à Laissez-moi. Mais travailler avec lui, Jeanne Balibar, qu'est-ce que ça a ouvert pour vous comme perspective dans l'exercice même de votre métier ?
Tout. C'est comme Madeleine. Disons que Jacques, pour moi, pour le cinéma, c'est ce que Madeleine a été pour le théâtre, voilà. Bon, c'était... Je ne sais même pas comment décrire. C'était sublime. Hein. Et simple, concret, jubilatoire, ludique, profond, léger, respectueux, intense, subtil...
Il était tout ça à la fois, Jacques Rivette.
Tout ça à la fois, oui.
Et son cinéma lui ressemblait terriblement. Mais Laissez-moi, donc, c'est le premier long-métrage de Maxime Rapa, qui avait tourné auparavant deux courts-métrages. Question toujours, qui revient toujours, mais qu'est-ce qui vous a fait accepter ce projet-là, Jeanne Balibar ?
Oh, le scénario était extraordinaire. Ce rôle de femme était d'une part magnifique et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, me paraissait très près de moi, toute proportion gardée, puisque c'est une femme qui a un enfant handicapé, mais cette espèce de dualité entre sa vie en tant que mère et puis en tant qu'autre chose que mère, c'est quelque chose qui m'habite. Et puis, il y avait aussi en filigrane... le film, justement, Jeanne Dillemant, de Chantal Akerman, avec Gelfin Seyrig, c'était très clair à la lecture du scénario. Et c'était très amusant de se dire qu'on allait rêver après ce film-là, quoi. sans faire la même chose, en, dans des enfin, c'était tout à fait autre chose, mais il y avait quand même ce fil un peu secret.
Oui, parce que cette Claudine, donc, que vous incarnez, qui, dont le métier est couturière à domicile, donc il y a ses tâches ménagères et manuelles, hein, qui peuvent rappeler la cuisine de Jeanne Dielman, et puis donc cette mère, le père est parti depuis longtemps de ce jeune homme atteint d'un handicap mental, moteur, incarné par Pierre-Antoine Dubé, qui est absolument remarquable dans ce rôle-là.
Ouais.
Et puis cette femme, elle va tous les mardis à la rencontre d'hommes, parce qu'on la découvre, hein, c'est le début du film, on la découvre dans un train, puis dans un téléphérique qui mène dans un hôtel en contrebas d'un barrage tout à fait impressionnant. Et elle vient choisir l'homme avec qui elle va passer quelques heures, en le faisant d'abord parler de là d'où il vient. J'en dis pas beaucoup plus, mais ensuite, elle retourne vivre son quotidien jusqu'au mardi suivant. Ce personnage de Claudine, ce qui est très très beau dans ce que vous lui donnez, c'est qu'à la fois il a beaucoup de mystère et une totale transparence en même temps. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais il y a quelque chose, oui, qui se lit et qui est illisible. Comment est-ce que vous êtes approché de cette Claudine là? Vous dites qu'elle vous ressemble beaucoup, mais il y a tout votre travail à vous.
Bah, vous savez, Rivette justement, il disait ce qui dit un peu d'ailleurs dans l'interview que vous avez diffusée, à partir du premier jour de tournage, je considère que c'est l'acteur ou l'actrice qui connaît le personnage, c'est plus moi. Il en sait beaucoup plus long que tous les autres réunis qui sont sur un plateau. Et Maxime m'a donné cette liberté aussi. Je pouvais lui proposer plein de prises différentes, justement en partant à chaque seconde de... À la prise 1, par exemple, je venais de lire un SMS désagréable. Alors, je jouais la prise en étant contrariée de ce SMS. Et puis, à la prise 3, je recevais un SMS de flirt. Alors, je jouais exactement la même prise en étant totalement excitée, survoltée, etc. Et pour moi, ça, c'est une très bonne manière de procéder parce que ça permet de donner au metteur en scène, après beaucoup de choix au montage pour fabriquer la trajectoire qui est déjà dans l'histoire. Vous savez, Truffaut disait il faut tourner contre le scénario, monter contre le tournage. Donc, moi, c'est ça que j'appelle tourner contre le scénario, c'est-à-dire, en fait, s'en foutre du contenu de la scène. S'en foutre, sauf que, en même temps, je veux dire s'en foutre, c'est-à-dire ne pas prévoir des choses en fonction du contenu de la scène. Laisser entrer le hasard, Romer disait ça aussi, notre plus grand allié en art, c'est le hasard. Laisser entrer le hasard et observer ce qui va se passer et entrer en résonance avec ce qu'il y a à faire et à dire quand même. Et peut-être que c'est ça dont vous parlez, cette transparence. Parce que du coup, ça ne construit aucune préméditation. Donc il y a une espèce d'immédiateté, d'ouverture maximale à l'état dans lequel on est soi par rapport à ce qui vous arrive réellement dans la vie. Or, la caméra enregistre toujours la réalité. Donc c'est pas la peine d'essayer, si on est contrarié, c'est pas la peine d'essayer de cacher qu'on est contrarié, parce que soi-disant le personnage ne le serait pas. De toute façon, la caméra va l'enregistrer, donc faut partir de là. Et puis, faire entrer ça en résonance avec ce que le partenaire vous envoie, ce que le décor vous... dans quel état physique il vous met, s'il fait froid, s'il fait chaud, s'il y a du vent, si c'est étouffant, si c'est exaltant. Comment la lumière a changé d'une seconde à l'autre, des choses comme ça. Et ça permet de ne jamais rien préméditer dans la prise. Et donc, du coup, aussi, de ne jamais, comme disait Jacques aussi, penser qu'on sait à quoi pense le personnage. Ça me fait penser à ce très beau texte dans Hamlet, quand il fait son adresse aux comédiens, il leur dit « N'essayez pas de jouer du personnage comme d'une flûte. » C'est ça, en fait. Il faut pas essayer de jouer d'un personnage comme d'une flûte. Bon, moi, c'est ma conviction, c'est ça que j'aime faire et c'est comme ça que je pratique le cinéma. Après, comme dit Delphine Seyrig, les acteurs font ce qu'ils veulent.
Non, mais de ce fait, si vous faites des propositions aussi différentes d'une prise à une autre, Jeanne Balibar, quand vous, en l'occurrence, avez découvert ce film-là, terminé, il y a une surprise pour vous? Est-ce que vous avez vu, pour le coup, un personnage?
Oui, j'ai vu un personnage. Bon, je dirais que je vois surtout un personnage parce que j'ai du maquillage bleu sur les yeux. parce qu'il y a des costumes. Mais non, je vois un personnage aussi que à la fois que je connais et que je connais pas, ouais. Mais c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est...
Et le fait d'avoir vous-même réalisé, en 2019, Merveille à Montfermeil, d'avoir été à ce poste-là, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport au cinéaste sur le plateau en tant que comédienne?
Je crois pas, non. Non, je crois pas que ça ait changé quoi que ce soit à mon rapport au cinéaste. Non, parce que je les aime toujours autant pour leurs différences. Mmh. C'est ça que j'aime. Ils sont tellement différents les uns des autres. Ça, c'est un plaisir inépuisable de découvrir la sensibilité, le regard, la personnalité de quelqu'un. Bon, après, mais ça, c'est pas le fait d'avoir réalisé un film, c'est l'âge, je crois. Je me suis radicalisée. Donc, en fait, maintenant, peut-être, je ne sais pas, 80% du temps, je suis très, très heureuse sur un plateau. Et alors, je suis folle de bonheur. Et puis, 20%, ou si tout d'un coup, ça ne se passe pas génialement bien, alors là, je supporte plus. Je deviens dingue. Je deviens comme un chat en cage, là. Alors, quand j'étais plus jeune,
j'attendais que ça passe.
Ouais, j'attendais plus que ça passe. J'ai pris une forme d'impatience. C'est le grand âge, même, carrément, ça. L'impatience.
Ouais, ça vous guette pas tout à fait, là, maintenant. Mais, cette première expérience de Merveille à Montfermeil, bon, il y avait eu un film co-signé avec Pierre Léon précédemment, mais est-ce que vous avez l'envie, et vous le disiez aussi, il faut l'énergie, de réaliser un autre long métrage?
Alors, oui, disons, c'est tellement jubilatoire de réaliser un film. Je crois que quiconque a, une fois réalisé un film, ne peut que avoir envie de recommencer. Ça. Surtout ce tournage-là avait été extraordinairement heureux avec les acteurs et avec tous les figurants de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois. Donc, j'ai vraiment, bon, oui. Pour le plaisir que c'est, j'aurais envie de recommencer. Maintenant, le plaisir que c'est, ça ne suffit pas. Il faut un bon scénario. Jusqu'à présent, j'avais eu quelques idées qui ne tenaient pas la route. Mais là, j'en ai une qui tient la route. Elle est vraiment difficile. Il faut que je la peaufine. Et aussi, ce serait un film cher. Donc, est-ce qu'on me donnera de l'argent pour faire ça? Je ne sais pas.
En tout cas, il y a cette activité quand même très prenante selon les sites référencés. J'ai vu 6 films pour 2024, certains sortis, d'autres à venir avec vous, Jeanne Balibar. Ce ne sont pas toujours des premiers rôles, bien sûr, mais sur le rapport au temps et au travail, je voulais vous proposer d'écouter Jeanne Moreau dans Radioscopie en 76.
On vit dans un monde qui est placé sous le signe de la productivité. Mais la rêverie, la lecture, la possibilité de ne rien faire, qui est un résultat immédiat, est important pour l'harmonie de l'esprit et du corps. Et rien ne pourrait naître, il me semble, s'il n'y avait pas ces moments privilégiés où on vit d'une façon différente, et où le temps s'écoule. Et justement, il faut résister, je crois, très souvent contre un sentiment de culpabilité. Ça m'est arrivé quelquefois de dire, mon Dieu, mais la journée a passé. Et puis, cette autre journée. Et puis, cette semaine a passé. Et je n'ai rien fait. C'est-à-dire, pas écrit une ligne, ou pas eu de contact avec le monde extérieur, des coups de téléphone pour organiser un emploi du temps. Et j'ai toujours lutté contre cette sensation.
Pour vous, Jeanne Balibar, est-ce que la jachère, c'est utile?
Je ne sais pas si je le dirais comme ça, moi. Elle pose cette jachère en opposition à la marche du monde et à sa productivité. Et moi, je mettrais plutôt face à ça la fuite. Pour moi, la rêverie, c'est plus une fuite qu'une jachère. J'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de fuir hors du monde. La lecture a toujours été ça, pour moi aussi, une fuite. Loin, loin, loin. Comme on dit Baudelaire, Vaste océan de l'immonde cité, ou un truc comme ça. Je crois que je cite pas tout à fait exactement le vers, mais c'est ça.
En fait, votre travail...
Un noir océan de l'immonde cité, je sais plus.
Bon, on a des auditeurs qui sont déjà en train de nous écrire pour nous donner le bon vers, mais votre travail vous permet justement de toujours fuir, et donc du coup de vous régénérer, de vivre pleinement.
Ah oui, 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 enfin, ça ne réussit pas à calmer toutes mes angoisses, notamment en ce moment, face à l'horrible marche du monde, mais je ne sais pas comment je ferais si je n'avais pas cette capacité de m'enfuir, ouais.
La lecture, vous le disiez, toujours très important, mais depuis toute petite, Jeanne Balibar.
Ouais. Mais bon, c'était déjà une fuite. Hein. Moi, j'étais connue pour ça dans ma famille. On m'appelait à table, je n'entendais pas. Il fallait m'appeler 10 fois. Je suis capable de partir ailleurs. Et les livres, c'est ça pour moi. Mais la danse aussi, par exemple. Parce que depuis Boléro, j'ai repris la danse, grâce au film, et du coup, j'ai pas réarrêté. Et c'est vraiment ça aussi, c'est fuir. Mais une fuite... Pas trop... Pas fermée, quoi. Ouverte à autre chose.
Ouais, vous avez retrouvé quoi en retrouvant la danse ?
La joie de bondir.
Il me reste, moi, à rappeler que vous serez demain dans les salles à l'affiche du très beau film de Maxime Rapa, Laissez-moi. Alors, il faut aller le plus tôt possible. C'est ça, l'économie du cinéma. Voir ce film dès demain matin, si vous le pouvez. Demain soir, si vous êtes occupé dans la journée, les premiers jours d'exploitation sont très importants. Et puis on a la chance d'avoir toujours à l'affiche Boléro d'Anne Fontaine, avec vous également Jeanne Balibar, et puis d'autres films qui sont annoncés à venir. Et puis ces projets sur scène. Alors ça, c'est vraiment de très très bonnes nouvelles que vous nous avez amenées aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Jeanne Balibar.
Merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Lorsqu'un changement mineur entraîne par proximité une réaction en chaîne, on parle d'effet domino. La démonstration de dominos chutant les uns après les autres donne souvent lieu à des scènes fascinantes, voire hypnotiques. Des sensations que Golden Bug est allé chercher en invitant la chanteuse du groupe Juniore, Anna Jean, et les infatigables Liminianias sur son morceau « L'effet domino ». Embellissant le paysage musical français à coups de rock 60s, franchement yéyé pour l'une, plus garage pour les autres, dans les deux cas psychédéliques, les deux artistes avaient tout pour s'entendre. Avec Golden Bug en chef d'orchestre, le mariage est parfait. Ce dernier, plus connu à la ville sous le nom d'Antoine Araspourou, est producteur, DJ et fondateur de La Belle Records. Sur son dernier album, Pisco Labis, où figurait déjà de Liminianas, il avait brillamment associé boucles électroniques et dubs psychédéliques en annonçant un Pisco Labis 2 pour la fin de l'été avec ce nouveau morceau. Golden Bug promet un enchaînement des plus favorables. C'est notre son du jour.
Toi, tu joues pas. Toi, tu mises gros. T'as tes raisons, même si c'est souvent par défaut. Tes horizons à degré zéro. La façon de reconnaître le vrai du faux. T'as pas la tête à jouer les anti-héros. Tu cherches les mots.
L'effet domino.
C'était l'effet domino de Goldenbung en collaboration avec Anna Jean et The Liminianas.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Paris et je vous propose ce soir une immersion dans l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Bonjour. Comment s'appelle cette machine là sur laquelle vous êtes en train de travailler ?
Alors c'est une double fonture.
Et ça sert à quoi ?
Ça sert à tricoter. Donc il y a deux types de machines, il y a les simples qui sont juste là, et les doubles. Donc sur les simples, vous pouvez voir qu'une rangée d'aiguilles, et sur les doubles, bah, vous en avez deux. Donc ça va tricoter des deux côtés, alors que là, ça va tricoter que d'un côté.
Et là, vous êtes en train quoi, d'apprendre à vous en servir ou à faire quelque chose avec ?
Moi, je suis en train de faire quelque chose avec. Je suis en cinquième année, donc je suis en diplôme. Donc là, c'est pour mon projet d'en étude. Et c'est dans le but de réaliser un échantillon ou plus pour mon diplôme.
Merci beaucoup.
De rien, même année.
Bonjour, donc je suis Jérôme Meudic, directeur de la communication et du développement de l'École des Arts Décoratifs.
Alors nous y sommes, à cette École des Arts Décoratifs. Est-ce que, avant de commencer la visite, vous pourriez nous dire en quelques mots d'où elle vient et ce qu'on y fait ?
Oui, et bienvenue à l'École des Arts Décoratifs qui a été créée il y a plus de 250 ans par lettre patente de Louis XV, originellement école de gratuite de dessin. Donc vraiment, ce qui est important, c'est que dès sa fondation, cette école a été pensée de manière démocratique pour tous. Ensuite, cette école a subi, ou plutôt a été enrichie de nombreux développements pour arriver aujourd'hui à cette École nationale supérieure des arts décoratifs, c'est-à-dire 10 écoles en une. Aujourd'hui, nous avons 10 secteurs de formation qui diplôment au niveau licence, master et même post-master et doctorat. Je vous en dirai deux mots. Mais en ce qui concerne les 10 secteurs de formation, nous recouvrons tous les champs des arts, du design, de la mode et de l'espace.
J'entends dans ce que vous dites art et design. Est-ce que vous formez des artistes ou est-ce que vous formez des designers, c'est-à-dire plutôt des industriels ?
Alors effectivement, nous formons autant des artistes que des designers et nous pouvons trouver à la fin des parcours des étudiants formés plutôt dans des secteurs artistiques à devenir des directeurs artistiques ou des designers devenir artistes. Et il est vrai qu'on attache une grande importance à la notion de décor telle qu'elle est portée par notre directeur Emmanuel Thibault depuis 2018, c'est-à-dire décor au sens large, l'environnement dans lequel on gravite, quels sont les nouveaux usages, les nouveaux imaginaires afin de revenir aux fondamentaux des arts décoratifs qui sont les arts de vivre et d'habiter. Et effectivement, aujourd'hui, ces arts de vivre et d'habiter nous sont adressés à l'échelle terrestre puisque nous subissons tous les enjeux, évidemment, de mutations environnementales, sociétales, mais également numériques. Tout l'enjeu de cette école aujourd'hui d'être en plus proche, en réaction de notre monde.
Je m'appelle Romane Guéfrappard, je suis en quatrième année en design textile et matière.
Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi cette voie-là et cette école ici ?
J'ai choisi cette école parce que c'était la seule qui me permettait de ne pas choisir de spécialité en première année. Et j'étais très attirée par cette école aussi, par la diversité des enseignements qu'elle offrait et par tous ces ateliers auxquels on avait accès justement en première année. Et c'est qu'à la fin de la première année qu'on nous a demandé de choisir une spécialité. Mais on avait toujours cet accès aux ateliers, même en choisissant une spécialité.
Et là, maintenant, vous savez ce que vous voulez faire en sortant de l'école ?
Ouf, non.
Pas encore ?
Non, je ne sais pas encore. Je pense que ce sont vraiment les stages qui permettent d'avoir un aperçu de, je sais pas, d'un travail. Après, on a eu en troisième année beaucoup de partenariats dans notre secteur, qui permettent quand même de sentir des affinités plutôt avec un secteur d'application plutôt qu'un autre, ou qui aide à grandir dans son projet professionnel.
Bonjour, moi je m'appelle Roland Charre, je suis enseignant graphisme textile donc aux Arts Déco dans le secteur, dans le département design textile et matières, et je suis référent licence.
Alors merci de nous accueillir ici, peut-être pour qu'on comprenne bien comment on y rentre d'abord dans cette école. Est-ce qu'on peut y rentrer après le bac? Est-ce qu'il faut passer une prépa? Comment ça marche?
Oui, les étudiants peuvent postuler dans le cadre de Parcoursup en première année, comme après le bac. Mais il y a d'autres parcours aussi. On peut rentrer en deuxième année, en troisième année ou en quatrième année, c'est-à-dire la première année de master.
Alors, il y a beaucoup de formations, on l'a entendu à l'instant. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots à quoi ça forme finalement? Quand on sort d'ici, qu'est-ce qu'on peut devenir?
Alors ça, c'est une question complexe, parce qu'en fait, le monde est devenu très complexe et je pense que nous pensons qu'on forme surtout aussi à des compétences.
Ça veut dire qu'il crée des motifs ou qu'il crée des matières concrètement?
Concrètement, c'est les deux, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire, nous, on a la chance d'avoir les trois ateliers textiles de base, c'est-à-dire maille, tissage et impression. Donc chaque étudiant et étudiante apprend les bases de ces trois techniques. Après, l'enjeu, c'est ne pas de former des techniciens, mais des concepteurs, des designers, mais qui connaissent ces matières, ces techniques, et qui, à partir de là, inventent des choses. Donc, on pousse beaucoup vers aussi des hybridations des matériaux pour trouver d'autres solutions à de nouvelles questions.
Alors là, on vient de voir des étudiants qui sont dans des ateliers. Est-ce que c'est uniquement une école pratique ou est-ce qu'il y a aussi une partie plus théorique ?
La théorie est quand même très présente à l'école. C'est vrai que beaucoup d'étudiants, pour ne pas mentir, ont envie de rentrer dans cette école parce qu'ils sont appâtés par ces magnifiques ateliers. Cependant, c'est vrai que la théorie, c'est super important. Les étudiants savent qu'à l'école, ils peuvent profiter de cette infrastructure, mais c'est surtout une initiation à beaucoup de choses pour bien comprendre ce qui est possible, mais pour réfléchir à ce qu'on peut en faire de toute cette matière et tous ces moyens techniques.
Vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est ?
Alors, on est dans l'atelier tissage et maille.
Donc là, les étudiants sont en train de tricoter ?
Oui, c'est ça. Alors, il y a une machine industrielle, presque industrielle, qui est en train de tourner.
Une grande machine.
Voilà, une grande machine qui est plutôt sonore. Et on entend les petites machines à tricoter, des machines de prototypage. Là, il y a une dizaine de personnes qui tricotent en même temps. Donc ça...
Oui, ça fait vraiment ambiance atelier. Hein.
Et derrière, on peut aller voir l'atelier ouais. Tissage.
Mais alors, au fond de la même salle, on change d'ambiance, on passe de machine au bois, en fait, hein, c'est une machine plus traditionnelle de tissage.
Bah là, il y a plusieurs types de machines, en fait. Vous pouvez voir des métiers traditionnels sur lesquels on apprend vraiment les bases. Et en même temps, on a un métier jacquard qui ne fonctionne pas. Et c'est pas plus mal, parce que c'est très, très sonore, là, tout de suite, maintenant. Et des machines qui sont reliées à des ordinateurs qui permettent de faire des choses plus grandes et...
Moi, je m'appelle Solène Emard, je suis en troisième année de design textile et matière.
Donc là, vous travaillez à la fois sur la matière
oui.
Et sur le design, le motif.
Oui, le dessin.
Le
oui.
Dessin.
C'est les choses principales dans notre secteur, c'est le dessin, la maille, le tissage, l'impression. Et c'est un peu les quatre pôles autour desquels on tourne.
Et vous savez à quoi vous dessinez en sortant de l'école ou pas du tout?
Non.
Vous avez du temps encore.
Oui, mais j'explore tout et enfin, en fait, tout est trop intéressant ici. Du coup, c'est dur de se concentrer sur une seule chose.
Vous pouvez peut-être nous dire ce qu'ils font là, les étudiants?
Alors là, nos étudiants préparent un typon, c'est-à-dire un cadre pour l'impression textile. Donc, elles travaillent actuellement sur le motif, sur le graphisme. Et donc là, c'est composition d'un graphisme. Et puis, il y a tout un processus sur l'ordinateur pour préparer le fichier qui sera après transféré sur un cadre d'impression pour imprimer C'est le même genre d'impression que la sérigraphie, seulement c'est impression textile. Mm-hmm. Donc c'est sur du textile avec d'autres encres que sur du papier, évidemment.
En fait, je démultiplie parce que je veux l'avoir deux fois pour pouvoir le copier sur l'autre.
Calme. Mais si t'as ta sélection, tu fais... Ah bah non.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là?
On est en train de faire un motif pour une impression en sérigraphie. Et là, on est en train de faire tout ce qu'il faut techniquement pour mettre sur le tipon, sur le cadre, insoler et après imprimer.
Donc c'est un travail de groupe, vous travaillez tous les trois?
Ouais, là on travaille à trois.
Et le plus dur, c'est de réussir à le mettre au raccord. Pour qu'on puisse en fait mettre plusieurs fois le cadre et le répéter et que ça fasse un motif
cohérent et suivi.
Voilà.
Bah oui, pour pas qu'il y ait de frontières ou de. Je comprends. Et comme c'est un motif non figuratif de ce que je vois, ou en tout cas c'est des bouts de figuration, ça doit être encore plus dur à relier.
Exactement.
Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous?
Bien demain, Arnaud, direction la Seine-Saint-Denis pour le festival littéraire Hors Limite.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.